Quel est le genre de mémoire que je peux produire? Voilà, j'essaye de faire une modélisation. Vous voyez, tout de suite, et je vous rappelle que dans ce cours, je modélise tout le temps. C'est un cours sur la modélisation, mais j'utilise le concept de modélisation au sein même de l'architecture, la construction et de la présentation du cours. Premier profil, c'est celui-ci, que je vais vous commenter bien sûr, hein. Ce serait le mémoire scientifique appliqué. Alors on dit scientifique, évidemment. J'avais expliqué la dernière fois, je crois, que le mot académique pouvait aussi être employé. J'ai certains collègues qui aiment le mot académique. Bon, on avait été un peu méchant en disant que le mot académique à l'université est paré de noblesse. Le mot académique quand on fait de la peinture ou quand on fait de la musique. Quand on vous dit de votre musique, oh, elle est académique, pas sûr que ce soit un compliment. C'est drôle d'ailleurs. Un mémoire académique, ça fait, pour moi, c'est un peu pareil, franchement. Un mémoire académique, j'ai attribué à peu près la même valeur que la musique académique. Voilà. Franchement, c'est pas parce que c'est académique que pour autant ça a les autres critères dont on va parler. Alors, ce mémoire académique, avec des guillemets pour sourire, ou plutôt scientifique appliqué, il est lié au terrain. S'il est appliqué, il est lié au terrain. Voilà, bien sûr. Il a une problématisation, on l'a dit. Il y a une modélisation, on l'a affirmé. Et les recommandations, je vous ai dit la dernière fois, je crois que ce n'était pas obligatoire. On n'est pas absolument obligé de mettre des recommandations. C'est plutôt conseillé si vous visez le très haut de gamme. Dans ce mémoire appliqué, on appelle mémoire de terrain, c'est aussi indiqué, vous voyez, ça peut être une étude de cas, une expertise de terrain. Puisque vous visez le 17, le 18 sur 20, il vaut mieux qu'il y ait des recommandations stratégiques à la fin. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Vous êtes dans les mains, vous n'avez, alors selon justement, tout ce que je dis sur le positionnement personnel, ben ça compte. En fonction de votre cursus antérieur, de votre expérience professionnelle, vous sentirez autorisé ou non à livrer ces recommandations. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a déjà fait, vous pouvez avoir fait quasiment un an de stage. Arrivé en M1. Si je cumule tous les stages que vous avez pu faire, BTS, DUT, plus L3, etc., on peut arriver déjà à un an. En cumul, bien sûr. Si vous avez cette année d'expérience, vous croire autorisé à livrer ces fameuses recommandations stratégiques, c'est logique. Si vous n'avez aucune expérience, bah, à vous de voir. On est bien dans le positionnement. D'accord? Alors, ce mémoire scientifique appliqué, c'est celui qui, en principe, est le plus fréquemment représenté en Master 1, ici. C'est pour ça que j'ai mis un numéro. Donc, mon ordre de mémoire va être évidemment tributaire de leur fréquence. En numéro 1, j'ai mis le mémoire le plus fréquent. C'est celui qui est relativement rassurant, puisque vous avez un terrain. En principe, j'ai bien dit qu'il est lié au stage. Ce n'est pas toujours lié au stage. Je vous ouvre une petite parenthèse. Si vous avez une expérience type associatif, on en a souvent parlé, vous avez déjà dit souvent qu'il y a une expérience associative, j'entends en tant qu'élu, hein. Si vous n'êtes que membre d'une association, bon d'accord, et vous payez votre cotise, et puis voilà. Bon. Non, si vous êtes élu, et de préférence pas au CA mais au bureau, bon, on est 5 postes importants d'association, président, trésorier, vice-président, secrétaire général, et puis les adjoints avec ça, ça vous donne déjà quand même un petit peu de connaissance de la communication en général, et puis peut-être d'un service qui peut être important. Donc dans ce cas-là, ça fait partie de la même chose. Et ça peut être aussi un secteur sportif, le secteur culturel, le secteur humanitaire, social, tout est possible. Voilà, c'est ce que j'appelle l'expérience de terrain. Mais ce n'est pas forcément une convention de stage ayant lieu pendant la période de stage de janvier à juillet, mais ça peut être lié à quelque chose que vous faites depuis très longtemps, en tant que, je ne sais pas, ma bénévole de telle ou telle association. Voilà. J'ai déjà donné des exemples d'étudiants qui utilisent la mémoire pour donner un cadre général, peut-être aussi essayer de bouger, de faire bouger les choses, de changer. Je ne vais pas vous dire qu'avec le changement, c'est maintenant. Pour dire ça comme ça, essayer de faire bouger les choses dans le cadre même de la rédaction, de mémoire et des recommandations qui y sont. Vous voyez? Ça, c'est parfaitement possible, c'est tout à fait accessible. certaines conditions, ça va faire la première fois aujourd'hui, mais depuis la dernière fois, je suis venu à 6 ou 7 fois aujourd'hui, de ne pas confondre le mémoire et le rapport de stage, le rapport d'activité. Et de redire que quand vous choisissez un sujet proche de vous, un sujet passion, prenez une distance suffisante par rapport à cette passion. Ça, c'est difficile. Parce que si vous êtes passionné par le sujet, il va bien falloir, à un moment ou à un autre, le mettre en perspective, ce sujet, et puis peut-être le critiquer. Et peut-être se dire, on fait comme si, mais est-ce que c'est si malin? Ne peut-on faire les choses autrement? Moi, je pose des questions qui seront perturbantes, dérangeantes. Et on est toujours dans le positionnement perso. Si vous êtes conformiste, vous n'aurez pas envie de ça, je vous déconseille de prendre un mémoire passion. Si vous êtes plutôt pas trop conformiste, je n'ai pas dit anti, mais pas trop conformiste, vous pouvez prendre mémoire passion. Vous voyez ? Je pourrais pratiquement faire des scénarios pour dire si vous êtes pas trop organisé, si vous êtes allez, un petit peu vélitaire sur les bords, vous pouvez le dire gentiment, enfin, bref, vous n'avez pas une claire conscience de vos limites. Si par-dessus le marché, vous n'avez pas une capacité d'autocritique personnelle de ce que vous êtes en train de faire, et bien ne prenez surtout pas mémoire passion, parce que ce sera complètement raté. Vous allez vous faire un descriptif de quelque chose qui vous intéresse, et ce sera dans, en aucun cas un mémoire. Bon, voilà donc le type de mémoire le plus souvent représenté ici. On verra si cette année, avec votre promo, on l'a toujours ou pas. Deuxième type de mémoire, il est tout aussi scientifique. Mais dans ce deuxième type de mémoire, comme vous le voyez, lui, il n'est pas de lien obligatoire avec le terrain, en particulier avec le stage. Il peut être totalement déconnecté de toute réalité professionnelle, de toute réalité concrète rencontrée en stage ou sur un terrain type associatif, comme je disais tout à l'heure. C'est typiquement le mémoire de master qui pourrait être orienté recherche, le premier étant orienté recherche appliquée. Je vous rappelle que la distinction entre recherche et recherche appliquée a la peau dure. Notre habitude franco-française de dichotomie, vous savez bien, une dichotomie radicale entre ce qui est noble, la recherche pure, d'ailleurs on dit pure, ça ne rappelle pas la race pure. Je parle, ça me dérange quand j'entends recherche pure. Il y a des collègues qui disent la recherche pure. Et moi, quand ils disent recherche pure, j'en pense race pure. Il me semble que race pure, on a vu, ça nous a conduit, ce genre de foutaise au départ. Il n'était qu'une foutaise et de drame, bien sûr, à l'arrivée. Donc la recherche pure, personnellement, ça me dérange. La recherche ne peut pas être totalement déconnectée de sa réalité. Des chercheurs scientifiques les plus abstraits comme Albert Einstein, dont j'ai souvent parlé, se préoccupaient de retomber sur le terrain. La preuve, c'est qu'Einstein a passé une bonne partie de sa vie à d'abord, je vous rappelle, convaincre les États-Unis de faire la loi atomique dans les années de guerre, de convaincre les États-Unis de faire la loi atomique, et ensuite, à partir de 1944, de convaincre les États-Unis de ne pas la faire. Alors, il les a bien convaincus pour la faire. Vous avez écouté Einstein. Le grand Einstein, vous l'avez écouté. Évidemment, on l'a moins écouté quand il a dit qu'il fallait absolument arrêter tous les travaux. Et on les a poursuivis, comme vous le savez. Et ça a mené à Hiroshima et Nagasaki, comme vous le savez aussi. Bon. Donc, il n'y a pas de distinction aussi radicale que ça entre le mémoire de type 1 et le mémoire de type 2. Ce qui veut dire que si je vous donne deux grands types, il ne vous est pas impossible de panacher les deux. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un mémoire de terrain concret, il est parfaitement autorisé à théoriser le plus haut possible. De même, quelqu'un qui veut faire un mémoire de type 2, très théorique, il est tout à fait possible qu'il y mette un peu de concret dedans. Vous voyez ? Cette distinction ne devrait plus avoir cours. Quand la grande réforme qui a institué des licences, les masters et les doctorats a été faite, il y a une douzaine d'années, même avant, passons, c'est européen et en France c'est Jacques Attali qui avait lancé cette idée-là il y a 20 ans. Il faut que les choses se fassent. Il a fallu 10 ans pour que ça se fasse. Et aujourd'hui encore, comme je vous l'ai dit, je crois, il y a des gens qui ont encore compris la logique du master. Il y a des gens qui pensent qu'il faut faire une sélection entre M1 et M2. J'ai déjà expliqué, comme on disait autrefois, il existe une certaine sélection entre la maîtrise, comme on disait, et les ESS ou DEA. On est long, hein, quand même, à évoluer. Foutument long. Et on va faire comme ça. Bien. Et donc, dans la réforme master, il était bien entendu que d'une part, on avait le cycle master 1 et 2 qui allaient ensemble, et qu'on pouvait très bien s'orienter sur des masters qui étaient certes avec une finalité orientée plutôt vers la recherche et une finalité plutôt vers les recherches appliquées. Et depuis 2 ans, on nous a rappelé par instruction ministérielle que ça serait pas mal qu'on évite la dichotomie et qu'on essaie de faire les deux ensemble. J'étais très content parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Super ! Pourquoi j'ai toujours fait ? Parce que, un, je sais comment fonctionne la science. 2, parce que j'essaye de respecter les instructions officielles, surtout quand elles sont pas trop bêtes. D'accord ? À propos, petite parenthèse, vous avez vu qu'une partie des présidents d'université, vous n'avez pas vu ? L'actualité s'est sortie ce week-end, réclame une sélection à l'entrée de l'université. Ça m'a bien fait rire par rapport à ce qu'on fait ici. Et oui, c'est très marrant. Bon, parenthèse carrément comme ça. Voilà, alors, ce mémoire scientifique, il est bien théorique, ambition, on l'a dit, il y a problématisation, comme au-dessus, méthodologie, définition de corpus, vous voyez, on y met quelques petites choses de plus, lien avec un terrain et découverte personnelle. Quand je dis lien avec un terrain, c'est parce qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'un peu concret, mais le concret, peut-être, nous l'avons dit, à propos du corpus que j'ai déjà défini, ça peut très bien être un corpus de livres. Voilà. Vous allez faire un master sur l'œuvre d'Abraham Wolf. Votre corpus, ce sera l'ensemble des bouquins et des articles écrits par Abraham Wolf. Ok ? Et il faudra aborder ça, exactement comme votre terrain, c'est de nager pour les 25 bouquins de Wolf. Je ne peux pas dire les 500 articles, mais au moins dans le livre, quelques articles parmi les plus importants, et vous allez travailler dessus. Voilà. Bon, ça, c'est les deux grands types de mémoire. Avec ça, j'ai couvert 90 ou 95% de la production de mémoire de master, qui sont pour la plus grande partie le type 1 orienté stage, et pour le type 2, bah, ils sont quand même nettement moins nombreux, mais ça peut exister. Si parmi vous, il y en avait un ou une qui se destine à plus tard faire de la recherche, c'est-à-dire vouloir entrer dans les professions d'enseignement supérieur et de la recherche, il n'est pas idiot de penser que ça serait plutôt le type 2 qu'il faudrait faire. Bien sûr. Je vous ai donné les pourcentages d'accès, ils sont quand même très très faibles. C'est pas pour dire que c'est pas possible, hein. C'est pour dire que c'est impossible, pardon. Mais, pas facile. Bon, surtout qu'il y a beaucoup d'autres candidats, comme on en a parlé, je pense. Alors, on n'est pas à 100%. On est à 90, je vous ai dit, 95%. C'est quoi le reste ? Bah, le reste, il y a deux extrêmes qu'on va voir. Le troisième type, c'est le mémoire le plus ambitieux qu'on puisse imaginer. Le plus difficile de tous. Pour ça, ça va faire un grand monde. Mais je ne peux pas vous en parler, sinon ça se vous prend pour les imbéciles en disant vous n'êtes pas capable d'envisager qu'on puisse faire un truc encore plus fort. Le mémoire le plus fort, pour dire ça comme ça, c'est le très ambitieux sans problématisation. Alors là, ça doit vous faire un peu réagir, non ? Sans problématisation préalable. Ah bon ? On peut faire un mémoire sans problématiser ? Eh ben oui. Eh ben oui. Mais non pas parce qu'on n'est pas capable de problématiser. Tout simplement parce qu'on a essayé de le faire. On a essayé des tas de problématiques avec les outils que je vais vous donner. Et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'aucune de ces problématiques n'était à la vie. Aucune. Et comme on a de bonnes capacités intellectuelles, de bonnes capacités de formalisation, d'abstraction, de modélisation, on garde quand même le sujet. Et on essaye de le traiter sans problématisation par la c'est-à-dire qu'on travaille, on va dire, sans filet, quoi. C'est la manière de faire passer l'idée que la problématisation, c'est comme le filet qu'on met au cirque quand il y a les équilibristes. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Mais il était un temps où les équilibristes travaillaient sans filet. Le public adorait d'ailleurs. Il y a du vrai risque. Mortel. Il y en a qui sont morts, ou qui sont côté blessés, à vie, non paralysés, etc. Mais sans filet, ça disait bien quelque chose. Aujourd'hui, avec l'expression sans filet, je suis pas sûr que ou soit on le saut en parachute, mais quand on n'a pas assuré le parachute, ou le saut élastique. Quand on n'a pas assuré l'élastique, je sais pas quoi. Bon, donc, la problématisation est un filet de sécurité. Et là, bah, vous allez faire une recherche sans le filet de sécurité, sans rien. On dit, pas bon. Un exemple peut-être, parce que je parle de manière très abstraite là-dessus. J'en ai plusieurs. J'en prends un fait il y a quelques années ici, là, par une étudiante que vous pourriez voir, peut-être parce qu'elle vient dans plein d'associations des anciens. Elle travaillait sur la communication interne en matière d'expérimentation animale dans les laboratoires pharmaceutiques. Déjà le sujet, il faut le trouver. Hein. Communication interne en matière d'expérimentation animale, là où on fait, dans les labos pharmaceutiques, c'est-à-dire dans les labos, comme vous le savez, on fait des tas d'expérimentations sur les animaux, histoire de voir si un jour ça peut marcher sur nous. Et pour ça, on va sacrifier sans problème des tas d'animaux. Des petits, des moyens, des gros, ça commence au cobaye, ça peut aller au singe, on prend. On a dans ce détail, puis on, parfois on le fait sur le chien, on peut le faire sur le porc, on va faire comme ça, sauf que le porc, on sort de beaucoup. Bref, on fait tout un tas d'expérimentations, ça dure des années, des années, des années, avec des protocoles très très solides, en matière de sécurité de toute nature. Problème rencontré par les labos il y a quelques années, d'une part des directives européennes pour dire attention au bien-être de l'animal, attention de ne pas le faire souffrir pour rien, attention, attention, bon, monsieur du lobby, on va dire là-dessus, donc on sait ce que vous voulez. Et en face, bah, obligation des labos à faire passer ces directives européennes dans la réalité des faits, donc convaincre leur personnel bah, qu'il faut le respecter. Et mémoire se poser la question, comment je peux convaincre le personnel, comment je peux faire pour, au bout du compte, ils se disent que c'est absolument indispensable et qu'ils doivent mettre en pratique tous les jours dans leur métier quotidien, qu'ils doivent mettre en pratique ces réglementations. Ma fille qui a fait ça, elle a donc essayé de problématiser, pas cette problématisation, ça n'a pas marché. C'était trop compliqué, en plus les gens ne disent pas la vérité. Vous allez aller interviewer des agents de laboratoire. Ils vont vous faire une déclaration parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est un peu limite par rapport au droit, vous voyez. Les chefs au-dessus vont vous faire des déclarations en langue de bois pour dire « Oh, mais dans mon laboratoire, mais tout marche bien, nous respectons tout, il n'y a aucun problème. Hein. » Vous voyez, ce genre de truc. Vous faites un journal interne, les gens vont vous dire « On le lit, c'est pas pour autant qu'ils vont l'appliquer. » Etc., etc. Le sac de monde. Et le mémoire, n'avancez pas. Et là, révélation. Génial, ça a été de se dire, ben, pourquoi je ne prendrais pas une des techniques qu'on apprendra, ce sera au chapitre 3, les profils types. Ça vous traite déjà un tout petit peu les profils types. Je ne peux pas problématiser, mais je peux essayer par contre de voir comment est-ce que les agents de laboratoire s'y prennent. Pour ça, je les observe. Bon, autorisation d'aller voir ce qui se passe dans les labos, c'est pas simple. Je m'entretiens avec eux, mais pas entretien approfondi, etc. J'arrive directement à la soutenance, une fois le mémoire rédigé, etc. À la soutenance, j'avais invité le directeur de la communication du CHU de Saint-Étienne. Quand j'invite quelqu'un d'extérieur avec un poste important, vous pouvez vous douter que généralement, ce que votre mémoire, quand on ne peut pas inviter un extérieur, si votre mémoire est nulle, ça ne sert à rien. Vous savez ce qu'on dit, communication c'est bien comme dicton. On lave son linge sale. Ah, surtout pas. Oh là là. Et je sais que certains le font. Ça c'est un truc indispensable. Donc, c'est pour tout le monde en général, surtout nous communicants, on lave son linge sale en famille. compte à régler, on le fait en privé. Si j'ai un truc désagréable à vous dire, je vais pas vous le dire en public. Je me convoque dans mon bureau, je sais pas où, et là, entre quatre yeux, hein, ce genre d'expression populaire, entre quatre yeux, je vous dis ce que j'ai à vous dire, et c'est privé, c'est en famille, entre guillemets. Vous voyez ? Vous connaissez pas l'expression ? Hein ? On a toujours son linge sale en famille. Donc, si j'invite à l'extérieur, c'était pas pour du linge sale, c'était pour du linge ultra propre. Pour finir ma comparaison. Et donc, notre étudiante explique ses profils types. Alors, deux, trois exemples qui restent de ce mémoire, qui est un boulot exceptionnel. Profil numéro 1, elle a appelé ça le technotechniciste. Par les agents laboratoires. Le technotechniciste, c'est celui qui, le lundi matin, comme aujourd'hui, arrive au boulot, voit ses collègues. Salut, alors ils tombent bien, ça va, les enfants, ouais, il a fait beau, etc. Prend un cobaye, la seringue, dans l'œil. Oh merde, j'ai raté, je me tue un autre. Ouais, et puis ça va bien, j'en suis un deux. Rien à foutre, c'est pas grave. Technotechniciste. Deuxième profil, le technicien, j'ai appelé ça le technicien. Humaniste, c'est ça. Le techno-humaniste introverti. Le techno-humaniste introverti, c'est celui qui, quand il prend le cobaye, pratiquement récite sa prière avant. En se disant, je ne vais pas te faire du bien, mais c'est pour le bien-être de l'humanité, c'est pour etc. Donc je vais te mettre un produit qui ne va vraiment pas te faire du bien, mais excuse-moi. Donc il mettait des considérations humanistes, voire il y avait des hésitations. De manière générale, les gens qui tuent devraient faire ça bien. Moi, j'attache une grande importance, quand je n'ai pas un boucher, surtout en ville, on s'espère hélas. Un bon boucher est toujours cravaté, avec une cravate rouge. C'était du temps que quand les bouchers tuaient des animaux, ils devaient faire en conscience. Il y a un film qui a répondu, je disais, il n'y a pas longtemps, c'est un bazar. Bon. Il y a un plan particulièrement impressionnant, l'avatar. Hop, vous voyez, je change de registre. Il faut apprendre à décoder ces films.
Je ne sais plus quelle bête il tue.
Ouais.
En gros, il a voyagé sur France. Il fait en sorte qu'elle ne souffre pas.
Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que moi, j'ai souffert, bien sûr. On va pas le faire souffrir avec un couteau pour la tête. Ça ne coupe pas bien mon couteau, d'accord.
Non, il apprend à le tuer en respectant la nature. Comme quoi, ça fait partie du cycle naturel.
Voilà. Et je le tue en conscience. Quand je le tue en conscience, c'est la partie du cycle, je dois te tuer parce que j'ai besoin de tes protéines, je ne sais pas trop quoi, mais tu es nécessaire à la vie, à la nature, etc. Et dans un film ultra grand public comme Avatar, on pourrait passer de ces contenus-là quand même. C'est ça qui est vraiment, moi j'adore trouver des contenus super, super fins dans des films, qu'on appelle des blockbusters, des films de très grand public, très grand budget, c'est pas un film de recherche, quoi. Hein. Bon. Enfin, un film d'ASL, donc en France. N'empêche que ces contenus-là fonctionnent. Alors, j'étais à deux profils types, il y en avait d'autres. Hein, on avait trouvé cinq, je crois. Parmi lesquels, il y en avait, bon, enfin, peut-être pas, je vous les décris. Arrive le temps de parole du directeur du CHU, et là, qui lui dit, mais alors, votre mémoire est tellement extraordinaire, vos profils types m'ont tellement éclairé, attention à ce que je veux dire, c'est un peu douloureux. Vos profils types m'ont tellement éclairé que, dans quelle mesure pensez-vous qu'on pourrait les appliquer à nos chirurgies ?
Quoi ? Comment ?
Et le tuteur a fait une réponse ultra violente là-dessus. Il s'est montré qu'il y avait certes un transfert possible, mais qu'il y avait d'autres. Et c'est vrai que certains chirurgiens sont dans l'acte chirurgical et ils n'ont peut-être pas toute la conscience qu'il faut pour ça, etc. 18 à la soutenance et 17 ou 18 pour mémoire. C'est un très beau exemple de mémoire dans lequel il n'y avait pas de problématique, mais à la fin, seulement des profils types qui permettaient de dire ben voilà, et à partir de ces profils types, eh bien, ça permettait de construire des stratégies de communication adaptées à chacun de ces profils. Vous savez pas, vous allez vous adresser à la même façon au techno-techniciste qui arrive le lundi matin, comme je vous ai dit, au techno-humaniste et aux 3 ou 4 autres catégories. Il faudra des formes de communication complètement spécifiques, voire par des canaux différents. Vous voyez ça ? À quel point c'est fin comme truc ? Voilà ce que c'est la mémoire, sans problème d'éducation. Et alors ? rare qu'on décide au départ. Hein. C'est plutôt parce qu'on s'attaque à un sujet très difficile qu'on ne parvient pas à le problématiser convenablement, qu'en cours de route, en accord avec le directeur de mémoire, on se dit, bon, bah, finalement, je ne peux pas problématiser. Et dans l'introduction de mémoire, on explique tout ça. On dit, j'ai bien essayé de problématiser numéro 1, paf, ça n'a pas marché. Numéro 2, paf, ça n'a pas marché. Numéro 3, et la suite, ça n'a pas marché. Donc, je continue. C'est fort. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est pour montrer que la science, la recherche, tout n'est pas écrit. Tout ne peut pas être mis dans une petite boîte où tout est bien clair, bien rationnel, bien logique et sécurisant. Il y a du risque à prendre. Et le risque, et puis c'est logique, c'est de ne pas problématiser. Ok? Bon, alors avec ça, j'en suis à 98%, si vous voulez, ou 99%. Qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste le tout petit pourcentage du dernier type de mémoire. Et le dernier type de mémoire, ben, vous devez vous dire, en ce moment, c'est quoi? Je pourrais vous le faire chercher, d'ailleurs. Si vous ne vous retrouvez pas là, ici, ou là, ou dans le troisième, ou même dans un mix des deux premiers, par exemple, où est-ce que vous êtes? J'ai pensé aussi à ça. Il existe un type de mémoire pour... Ben, pour les nuls. Pour les nuls. Le mémoire pour les nuls, pour les mauvais, les imbéciles, les crétins, les paresseux. Pas vous, hein. C'est le mémoire de compilation. La compile. Comme dans un disque, on dit on fait une compile généralement, on met les trucs les plus commerciaux, n'importe comment, et puis vas-y machin, que je te vends ça pour essayer de faire du fric avec. Donc, c'est bien ça une compile, non? Les vrais amateurs de tel ou tel chanteur, par exemple, ou chanteuse, peut-être pas bien acheter des disques de compil par rapport à votre chanteur ou chanteuse préférée. Vous préférez les albums originaux qui ont été créés, etc. D'accord ? Compil, c'est pour les nuls. Eh bien, la mémoire, c'est pareil. La compil, c'est pour les nuls. C'est quoi la mémoire de compil ? C'est super. Ça commence alors A, l'auteur A, il pense que. B, il prétend que. C, il avance que. Etc. Vous mettez en regard des citations des uns et des autres, et vous, est-ce que vous pensez? Ben non, bien sûr. Vous partez les plats, quoi. Vous ne pensez pas, vous ne pensez rien, vous ne créez rien. Vous ne mettez que des petits bouts de texte les uns à la suite des autres, ça ne sert à rien, ça s'oublie tout de suite, aussitôt qu'on l'a lu, et ça donne juste une chose intéressante à savoir. C'est que les trois premiers types de mémoire, le scientifique appliqué, le scientifique très très abstrait, ou le mémoire sans problématisation, dans ces trois types de mémoire, l'échelle de notation va de 0 à 20. C'est pas logique, non hein? La compilation, ça ne va pas de 0 à 20. Ça va de 0 à 10. 11. Voilà. C'est 0 à 10 ou 11. Parce que je suis gentil. Parce que je n'ai pas interdit mes mémoires de compil. Si notre objectif dans la vie, c'est d'avoir un petit 10, tranquillou, en ne pensant rien, en ne créant rien, eh bien, c'est une compil. Mais pour avoir le 10 en compil, attention, il faut que ce soit absolument parfait. Donc, bien sûr, la bonne biographie, les bonnes citations, la précision, pas trop de citations, etc. Quand vous atteignez la perfection de la compilation, vous serez à 10 et peut-être éventuellement même 11. On peut atteindre dans un cas exceptionnel 11 sur 20. Vous vous rendez compte? C'est vachement motivant de travailler pendant des mois pour se dire que le maximum qu'on puisse obtenir, c'est 11 sur 20. Si ça vous branche, c'est parfait, tu te compiles. Si ça ne vous branche pas, laissez tomber la compile. Laissez tomber ce type de mémoire dont, hélas, les archives sont surencombrées. Il y a quand même beaucoup de mémoires qui ne sont que la compile. Je vais même dire qu'il y a beaucoup trop de thèses qui ne sont que de la compilation. Il m'est arrivé de refuser que des thèses viennent en soutenance. Pour soutenir une thèse, faut que deux personnes fassent tout un long, long papier pour dégager ce qui est bien, ce qui est moins bien, etc., préparer les questions et conclure en disant, malgré toutes ces critiques, j'autorise la thèse à venir à la souplesse. Vous voyez, on le fait pour les thèses, on ne le fait pas pour vous. C'est-à-dire que vous, si on pense que votre mémoire est mauvaise, je n'ai pas le pouvoir de vous interdire de souvenir. Je n'ai pas le pouvoir de vous interdire de souvenir. Pour une thèse, j'ai ce pouvoir. Il m'est arrivé, quelquefois, pas très souvent, mais ça m'est arrivé de conclure en disant, je refuse que... Là, dans ce cas-là, c'est comme on, à la romantique, c'est pousse comme ça. Hein. Parce que la personne qui a bossé la thèse, ça veut dire, bon, bah, ciao. Rendez-vous dans un an ou deux. Quand tu auras tout refait, peut-être que tu pourras venir un jour. Donc, c'est quand même une décision lourde. Lourde. On ne veut même pas que la thèse arrive dans le sous-temps. Bon, alors, pour vous, en principe, ça n'arrivera pas, mais peut-être que directement, on va vous dire que c'est pas bon, si d'aventure c'est pas bon. La compilation, eh bien, on peut reprendre une dernière chose. Faut-il ne pas compiler? Bien sûr que dans ces deux types de mémoire, et puis aussi dans celui-là, il faut une toute petite partie de compilation, c'est-à-dire il faut une partie de citation d'un certain nombre de textes qui sont importants, évidemment. Évidemment. Comme on a des historiens, on va voir peut-être une grande évolution des épistémologies historiques. Pendant fort longtemps, pas tous les historiens d'ailleurs, pendant fort longtemps, on a considéré que l'histoire c'était une compilation d'événements passés, c'est-à-dire qu'on raconte, on prend des extraits, des archives, paf paf, on fait parler d'archives, et puis terminé. Mais les grands historiens n'ont jamais fait ça, ils ont toujours cherché à trouver un cadre général. Et les premiers qui, en France, dans la grande tradition historique chez nous, a fait ça. On a cherché un sens derrière les faits historiques qu'il a rassemblés. Les historiens peuvent me le dire. La Michelet. Le grand Jules. Comment? Non, c'est pas vrai. Je ne me sens pas bien. On vous a pas parlé de Michelet. On vous a pas fait lire quelques pages de Michelet.
J'étais parmi ça.
Comment?
J'étais parmi ça.
Ah oui, d'accord. Non, mais alors, c'est qui l'historien? C'est vous, pardon. Bon, d'accord. Oui, mais je confonds, vous étiez sociaux, c'est ça.
C'est ça.
Ouais. Donc, Michelet.
Si, oui.
Ah, bon. Vous êtes Michelet, on est d'accord. Bon. Donc, c'est avec Michelet qu'on a, en France, hein, on peut voir, il y a eu des, peut-être dans d'autres pays des approches un peu différentes, mais pour la partie des historiens français, pardon, de l'histoire française, parce que. Il y a un historien anglais qui peut parler de l'histoire de France. Hein. Aussi, il y en a des très bons d'ailleurs. Bon, et donc, pour le moment où l'histoire est passée de la simple narration à de l'analyse et la mise en perspective et un sens qu'on essaie d'attribuer aux actions des personnes, personnalisées généralement, eh bien, c'est effectivement avec Michelet que les choses ont beaucoup changé. C'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs. Regardons ce qui explique la Révolution française. Très intéressant. Donc, même en histoire, c'était pour vous dire ça, même en histoire, on ne fait plus que de la compilation. Même en histoire. Alors qu'a priori, c'est un domaine, une discipline dans laquelle ça s'y prête bien. Voilà. Bon, bah, à partir de maintenant, vous savez où vous êtes. Je pense que vous êtes plutôt là-haut. Hein? Mais il n'est pas impossible d'y mettre un peu de ça. Comme vous voulez. Voilà, il faudra, alors sur le site, le Google Drive, hein, puisque j'ai commencé le Google Drive, enfin je l'ai commencé, je l'ai créé, hein, ça y est, tout y est, sauf les dates de soutenance que je n'ai pas encore indiquées, j'ai dit mai et juin comme d'habitude, mais j'ai pas calé ça, faut jouer avec le secrétariat universitaire, blabla, truc, bon. Vous avez sur le site Google Drive, à un moment il faudra indiquer le type de mémoire, si vous prenez le mémoire scientifique appliqué qui s'appelle le MSA ou je sais pas trop quoi. Voilà. Ça, c'est sur les types de mémoire. Bien, il nous reste une dernière chose à faire dans ce positionnement perso, c'est le choix, les relations avec le coach, le directeur de mémoire, pour le dire comme ça. On peut dire aussi le tuteur, mais c'est plutôt réservé au stage, le tuteur chez nous, le prof suiveur, l'accompagnateur. J'ai choisi le mot coach parce qu'il me semble bien correspondre, même si aujourd'hui coaching sont terriblement dévoyés. On a un problème en N2 avec le mot coaching d'ailleurs, puisqu'il y a des interventions de coach. On parle du coaching en N2, mais beaucoup de coachs professionnels n'emploient plus ce mot. Parce que les médias, le grand public se sont appropriés de manière totalement stupide. Et qu'aujourd'hui, ça fait plutôt sourire. Quand on voit une pub, le coach de votre peau, ou le coach, je ne sais pas trop quoi, bon, ça ne veut plus rien dire. Je l'ai quand même gardé, parce que dans le coaching, il y a une idée fondamentale qu'il faut comprendre, et ça vous sera utile pour la suite, différence entre un consultant et un coach. Le consultant est là pour vous apporter son expertise et trouver la solution à votre place. Et bien, ton mémoire, c'est pas lui qui va faire le mémoire à votre place. Le coach, au contraire, il est là pour vous aider à trouver votre solution. Vous voyez la différence? Le consultant trouve la solution à votre place, le coach vous aide à trouver votre solution. C'est un accompagnateur d'ailleurs. Les coachs préfèrent dire qu'ils travaillent dans l'accompagnement des personnes. Ils accompagnent les personnes dans leur itinéraire professionnel. Il y a aussi des coachs pour la partie privée, perso. Mais dans la partie professionnelle, ils font de l'accompagnement. Alors, le coach, il va vous accompagner, vous voyez ça comme ça, dans cette histoire de mémoire. Alors, le paragraphe qu'on va traiter maintenant, il est, je pense, assez rigolo, vous allez voir. Il m'a été inspiré par des remarques que faisaient les étudiants après les soutenances. Étudiants aussi bien de master jusqu'à la thèse. Hein. Plutôt en thèse, d'ailleurs, on n'a pas forcément la même relation, mais ça peut être très rapide. Je m'étais demandé, il y a longtemps maintenant, comment se fait-il que face à un même coach, alors directeur de mémoire, directeur de thèse, etc., hein, comment se fait-il que les points de vue des étudiants soient parfois très, très opposés, radicalement opposés? C'est-à-dire que certains disent, oh, avec moi, il était génial. Il ou elle, coach, je ne mets pas de sexe derrière. Il ou elle était génial, disponible, brillant, toujours intelligent, nous donnant une bonne référence, etc., etc. Et un autre étudiant parlant du même coach, oh, bah, avec moi, jamais présent, s'intéressait pas à moi. Bref, j'ai vraiment eu l'impression qu'il ne servait à rien, tandis que l'autre, ça, c'était génial. Pourquoi? Pourquoi avoir deux perceptions aussi radicalement différentes d'une même personne? C'est le secret de la réussite d'un mémoire, des relations avec le coach, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Quel est le secret? Qu'est-ce qui fait que, dans certains cas, tout fonctionne bien avec le coach, dans d'autres, tout fonctionne mal? On va passer en revue des commandements. J'ai appelé ça des commandements, pour m'amuser, hein, en référence aux 10 commandements, bien sûr. N'oubliez pas, toujours une dose d'humour, d'autodérision. Si on n'est pas capable de pratiquer un peu d'humour et un peu d'autodérision, je suis assez inquiet. Quand je vois le nombre de personnes qu'on en passe, c'est à pleurer. Enfin bon. Le premier de mes commandements, on y va. Le coach n'est pas l'auteur. On va dire, même si certains, parfois, ça ne leur déplairait pas. Il y a des enseignants, j'en ai connu, enseignants-chercheurs universitaires, qui pratiquement réécrivent le travail de leur où il y en a d'autres, et là c'est pas universitaire, c'est dans le monde professionnel, qui vivent par procuration ce qu'ils auraient aimé connaître quand ils étaient jeunes. Et donc se mettent dans votre peau. Et donc vous êtes, et vous allez sur le dos sans arrêt parce que c'est eux qui vont faire le boulot. Vous voyez, c'est à la fois, c'est très différent de motivation. Bon, et puis je pourrais croiser ça en disant, il y a des étudiants, vous, qui pouvez avoir bien envie qu'on fasse le boulot pour vous, non? Remonte à votre petite enfance, hein, quand on vous disait de ranger votre piole, soit vous le faisiez directement, soit vous le faisiez pour un patron, non? C'est pareil. Donc, c'est pas l'auteur, et il faut bien s'en rappeler quand on dit c'est pas l'auteur, ni en bien, ni en mal. C'est-à-dire que quand on va critiquer une mémoire, ça sera toujours vous qui serez considéré comme responsable Ça, c'est mon premier commandement, c'est pas le coach l'auteur, même s'il est là pour vous aider, bon, nous sommes d'accord. Deuxième commandement, je vais souvent boucler autour de ça, il n'est pas disponible en permanence. Et parmi les secrets, on va voir petit à petit des bonnes relations avec le coach, ça, c'en est un de très grande importance. Disponible en permanence, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible 24 heures sur 24, pour être prompt sur le champ, à brûle pour point, pour des tas de questions de toute nature, qui vont des questions vraiment difficiles, théoriques, problématiques, hard, compliquées, juste des questions complètement bulles, du genre, j'ai oublié le numéro de téléphone de telle personne, pourriez-vous me le redonner, ou je ne sais pas quoi. Bon. Non. Je rappelle un petit détail, c'est que dans ce cursus, alors moi j'applique la loi, pas comme tout le monde, les coachs, c'est-à-dire enseignants qui vous suivent ne sont pas rémunérés. Ils ne sont pas rémunérés. Ça part du principe que si vous faites appel à un universitaire, on considère qu'il n'a pas à être rémunéré pour ça, ça fait partie de son travail. Un universitaire, vous savez, n'a pas un très grand nombre d'heures de cours par semaine. Et si on se dit, oui, il y aura du temps, qu'est-ce qu'il fout? Je ne parle pas de la recherche, hein. Je parle de l'enseignant-chercheur. Qu'est-ce qu'il fait le reste du temps? La réponse, il peut par exemple aider des étudiants à travailler leur sujet de thèse, leur sujet de master 2, de master 1, etc. Bon. Voilà, c'est une première raison pour dire qu'on ne rémunère pas. Mais ça pose un problème pour ceux qui ne sont pas des enseignants, chercheurs, statutaires. Bon, non. Dans le cursus de master, comme je vous ai dit, il y a quelques statutaires, ils ne sont pas ici, mais ils sont peu nombreux. Les autres, ce sont des professionnels engagés à différents niveaux, comme dirigeants parfois, comme dirigeants, comme IRCOM, comme consultants, comme coach, etc. Et on considère qu'on leur applique le même statut qu'un enseignant-chercheur, comme on dit, ils ne sont pas rémunérés. J'en connais même qui doivent, parce qu'ils sont dans des entreprises un peu casse-pieds, prendre une journée de congé pour les souffrances. Une demi-journée de congé pour les souffrances. À ce point-là. Normalement, quand vous êtes cadre et bien reçu, vous n'êtes pas obligé de demander l'autorisation de vous absenter du boulot pendant 8 jours. Hein, c'est sous. Bien entendu, parce que vous ne faites pas 8 jours de question, le soir, la nuit, le week-end, on s'en fout, mais enfin, bon. Hein. Ok? Cadre, plus loin pas. Certains, malheureusement, ont été obligés de demander des journées à l'employeur pour venir, en particulier ceux qui sont dans le public, où parfois les relations sont toutes un peu conflictuelles et où on est bien à réorienter. Donc ils ne sont pas rémunérés. Ce n'est pas le cas partout. Dans les écoles de commerce et autres formules du même genre, les enseignants sont payés. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Quand moi j'ai fait ça dans l'école de commerce, je peux vous dire, on vous donne 3 heures. 3 heures, ça fait 150 euros. Pour un mémoire sous plus de 150 euros, vous voyez le nombre d'heures que vous avez passé, vous êtes moins cher que la femme de ménage. Et bien moins que le coiffeur. Donc quand c'est rémunéré, c'est mal rémunéré. Ici, ça ne l'est pas. Simple. Donc on pourrait dire qu'il n'est pas disponible en permanence parce qu'il n'est pas payé. Mais ce n'est pas la seule raison, bien sûr, c'est parce qu'il y a d'autres choses à faire. Bon, alors, je passe avec mon troisième commandement au secret de la réussite, comme on le dit dans certains bouquins. Quel est donc le secret qui fait que, avec tel étudiant, le coach va être perçu, on est tout à l'heure comme génial, et qu'avec tel autre, il va être perçu comme abominable. Vous allez savoir, si vous l'avez regardé avant, évidemment. Hein. Donc, ce troisième commandement, séduisez votre coach, bon sang, séduisez-le. Faut-il ajouter intellectuellement? Vous prenez que vous voulez. Bon, et ça, je vous assure que ça marche, si je l'applique à moi. Les étudiants avec lesquels j'essaie d'être très bon, d'être meilleur, de trouver les bonnes idées, c'est ceux qui intellectuellement font réfléchir. C'est ceux qui me posent des questions intelligentes. C'est ceux dont on voit qu'ils réfléchissent vraiment à leurs problèmes, à leurs sujets. C'est ça la séduction. La séduction intellectuelle, c'est de dire, purée, c'est pas bête ce que vous êtes en soi. quand vous avez cette mauvaise soirée, oh, c'est pas mal ça. D'un coup, le coach, il est séduit et il a envie de vous aider. Si vous pointez devant votre coach en posant des questions stupides, ou n'en posant pas, si vous pointez devant lui avec l'air complètement idiot, genre le bovin qui regarde passer le train, quoi. Hein? Si vous montrez aucun intérêt, tu n'as aucune passion pour rien, jamais. Si vous ne posez aucune question intelligente, originale et compagnie, eh bien, le coach, il vous prendra pour ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un complètement endormi, et c'est pas comme ça qu'il aura envie de meilleur avec vous. Et le truc. Donc, faites tout pour le séduire par votre capacité d'écoute. Par exemple, conseil tout bête, quand on vous parle d'un truc intelligent, faites au moins comme un chien, penchez la tête pour avoir l'air intelligent. Quand même, faites au moins ça. Essayez par votre regard de montrer, les précieuses, qui n'étaient pas si ridicules que ça, parlaient au propos du regard, que c'était les précieuses, vous voyez, c'est bien fichu de leur tête. Très belle expression des précieuses. Bon, il y en a une qui est très connue, les miroirs de larmes. C'est déjà pas mal, vous allez trouver. Mais il y en a une qui est plus adaptée pour ce que je veux dire, les muets truchements. Ça va? Les muets, franchement, ça ne donne pas. Hein, peut-être que c'est ça, je me doute que c'est la langue de Molière, hein, et parfois la langue de Molière, ben, truchement intermédiaire. Je voudrais obtenir tel renseignement par le truchement de telle ou telle personne, par l'intermédiaire de quelqu'un. Truchement, c'est intermédiaire. Donc les muets truchement, ce sont les muets intermédiaires. Les intermédiaires muets, si vous préférez. Les yeux sont des intermédiaires. Simplement par le regard de votre qualité. Moi, je pratique tout le temps, je vois bien dans votre regard si vous êtes en train d'écouter attentivement ce que je vous raconte, si ça vous convient, ou au contraire, on dit, mais c'est bien, c'est lundi matin, vous pensez à votre week-end passé, à votre week-end prochain, je ne sais pas trop quoi, et l'intérêt de ce que je vous dis, on entend bien. Hein? Donc, il doit être séduit par toute votre intelligence, quoi. En fait, c'est ça. Soyez intelligent, soyez créatif, original. Posez-lui des questions qui fassent, je l'ai dit tout à l'heure, dès le départ, qui se disent « Ah, purée, mais c'est pas bête ça !» Parfois, ils vous disent « Ah, mais c'est pas mal votre truc !» Quand on vous dit « C'est pas mal », ça y est, vous avez marqué plein de points. Alors, pour préciser comment on peut le séduire, je reprends celui-ci, pas disponible en permanence, il ne doit pas être dérangé pour rien. Alors, le dérangé pour rien, c'est ceux qui oublient tout. Ceux qui vont tout le temps lui poser des questions sur n'importe quoi, genre de truc stupide, faire travailler votre coach sur la partie contextuelle, historique de votre sujet. Il n'est pas là pour perdre du temps, pour voir si vous avez bien pris le bon contexte, les bons éléments historiques du sujet, c'est votre boulot. Peut-être pas bosser un coach pour ça, vous le dérangez pour des prunes. Il n'est pas là non plus pour vous aider en tout lieu, en toutes circonstances, par exemple pour des questions d'orthographe, de style, de grammaire, de structuration et compagnie. C'est votre boulot, premier commandement. Si ce n'est pas lui l'auteur, c'est vous. Donc c'est à vous de vous bouger pour ça. On continue. Ça, c'est très important. Là, c'est un secret concret. Il apprécie qu'on note. Moi qui suis plutôt d'un naturel cool, vous devez le voir, ensemble. Bon. Quand je reçois quelqu'un pour parler de son mémoire, et qu'on arrive à un moment où on réfléchit ensemble, par exemple sur la problématique, une hypothèse, un truc difficile, et que je me mets à cogiter moi-même sur le sujet, et que je commence, et qu'en face de moi, j'ai une espèce de potiche qui me regarde, et qui note rigoureusement rien, et que moi, en parlant, je me dis, ça c'est pas mal, c'est intelligent, en pensant de bon sens, c'est pas mal, et en face, rien. Ça fait partie des rares choses qui m'énervent. C'est rare que je m'énerve, ça arrive, hein. Tout le monde, mais c'est assez rare, j'ai la chance de pas trop m'énerver. Alors ça, franchement, ça me touche dans les portes de moi, et dans ce cas-là, au bout d'un certain temps, je m'arrête et je dis, j'observe que vous n'avez rien noté. Je pense que c'est parce que vous êtes beaucoup plus intelligent que moi. Parce que moi, quand on dit des choses un peu compliquées, je dois les noter. Alors, puisque vous n'avez pas noté, répéter, vous allez me répéter exactement tout ce que je vous ai dit. Bien sûr, il y a des instants. Et dans ce cas-là, le contact avec le coach, vous voyez, il est fort élevé. Alors moi, je vous le dis ça, mais il y en a qui ne vous le diront pas. Ok, moi, je vous le dis pour essayer de vous faire prendre conscience déjà que ce n'est pas bien. Et peut-être que vous ayez l'énergie ensuite pour vous améliorer. Mais les gens, ils ne vous le diront pas. Hein. Mais sauf que si vous ne disent pas, vous êtes catalogué, classé, c'est terminé. Celui-ci ou celle-ci, trop nul. Trop nul. Si un fichu de noter ce qu'on est en train de vous dire, c'est même pas la peine. Hein, ça, c'est vraiment très, très important. Notez-le alors que vous le notiez papier ou ordinateur. On s'en fout. Hein, ça n'a aucune importance. Il y a certains étudiants qui me demandent s'ils peuvent m'enregistrer. C'est facile aujourd'hui d'enregistrer. Bon, eh bien, vous demandez à votre coach si vous pouvez enregistrer. Il est vrai qu'à certains moments, il vaut mieux enregistrer, parce que peut-être la prise de notes est difficile, je ne sais pas trop, peut-être la prise de notes va vous perturber dans les champs. Bien sûr, tout ça, c'est parfaitement recevable. Surtout si vous avez votre ordinateur avec vous, vous mettez des éditions enregistrement ou votre... Voilà, vous avez un bidule pour enregistrer. Autrefois, il fallait... Magnétophone et compagnie, c'est quand même plus simple aujourd'hui. Nous en sommes à 5 commandements, on continue sur le sixième. Celui-ci, il est un peu gênant. Dans la structuration universitaire classique, le coach, le directeur de mémoire et de thèse, il devrait être le garant de la crédibilité, de l'honnêteté, bien sûr, de l'étudiant dont il a la responsabilité. Et donc, il devrait tout vérifier. C'est un principe. Dans la pratique, c'est impossible. C'était déjà difficile quand on avait un faible nombre d'étudiants à suivre. J'ai dit qu'autrefois, le ratio, c'était un enseignant qui suivait 3-4 étudiants. C'est encore possible dans certaines disciplines où il y a très peu d'étudiants. Hein. Reconnaît sur mes petits camarades de lettres classiques. Dans les lettres classiques, vous savez combien ils sont en master de lettres classiques? Ça tient sur les doigts d'une main. C'est peinard. Donc si vous en avez 5, oui, latin grec. Hein. Si vous en avez 5 étudiants, ça va, quoi. Hein. Après tout, 5, vous pouvez quand même bien. Comment? En tout cas, ils ont les moyens de le faire. Hein, quand même, on a 5 étudiants, on peut peut-être quand même se dire, pour certains, on peut faire 2, c'est pas évident. Il se trouve que dans beaucoup de cursus, bien sûr, c'est pas le cas, et on n'en a pas le temps, bien sûr, d'autant qu'il y a les mains, il y a les deux, il y a parfois pas toujours, les thèses, etc. Et dans la pratique, on est arrivé au stade où le coach ne peut pas tout vérifier. Alors, s'il ne peut pas tout vérifier, ça revient au premier principe, c'est quand même vous, l'auteur, donc c'est vous qui assumerez les problèmes si d'aventure vous avez copié, vous aviez plagié. Il ne s'agira pas de dire, vous comprenez, j'ai triché, mais mon coach aurait dû le dire. Ah, c'est pas vraiment le genre de truc à sortir. Pas vraiment. Hein. Bon, donc puisqu'il ne peut pas tout vérifier, eh bien, essayez de vous concentrer, j'avais un petit peu dit sur un autre, donnez-lui l'essentiel. Qu'est-ce que le coach doit vraiment, vraiment surveiller? On va dire, c'est la mise au point, bon, je parle du sujet, si vous voulez, hein, choix du sujet, de l'éducation, d'accord. Question de corpus aussi. Après, c'est votre problématique, vos hypothèses, les variables sur lesquelles vous allez travailler, ça, c'est son boulot. Un exemple typique où il faut absolument obtenir son aval quand vous faites un questionnaire, soumettez-lui le questionnaire avant de l'administrer. Ok, donnez-lui un délai raisonnable. Si vous faites partir un questionnaire à 200 ou 300 personnes sans avoir demandé à votre coach s'il est d'accord sur le questionnaire, c'est la cata, parce que ça peut très bien arriver, puis vos questions sont complètement nulles, elles sont mal posées, on verra quel est le scénario pour construire les questionnaires. De même pour les entretiens, les guides d'entretien, les questions que vous avez préparées sont complètement nulles, ça va pas. Donc, ces points-là, qui sont cruciaux, il faut absolument que votre coach vous aide. Je ne parle même pas de la bibliographie, tellement c'est évident, hein. Je parle assez peu de la bibliographie, je le mets comme une chose est tellement évidente, vous êtes à Bac plus 4, si vous ne savez pas faire une sûr que le coach doit, enfin doit, il peut vous aider, il doit, non, c'est pas un devoir, mais il peut vous aider pour trouver des références par rapport à votre sujet. Mais attention, attention, les enseignants, chercheurs, statutaires, c'est leur job que de vous donner des conseils bibliographiques. Les coachs professionnels n'ont pas forcément une grande bibliographie. Donc c'est à vous de faire le boulot. Utilisez un coach pour ce sur quoi il est le meilleur. Si l'universitaire, son point d'excellence, c'est la biblio, utilisez-le pour la biblio. Si son point d'excellence, c'est les contacts professionnels, utilisez-le pour les contacts professionnels, et ainsi de suite. En fait, je vous donne, dans ces conseils des relations avec le coach, quelques grands principes de management. Pourquoi je dis ça? Parce que le coach, c'est vous qui choisissez, on a déjà dit ça. Quelque part, c'est un recrutement. Si je m'amuse, je veux dire que vous allez recruter un coach. Pas par petites avances, avec salaire, mais vous pensez ça. C'est bien vous qui cherchez une personne avec laquelle vous allez bosser. Il ne s'agit pas de vous planter. Donc le choix du coach, on y reviendra peut-être en conclusion, est très important. Hein, très très important. Avec des critères autres que oh ben il ou elle est sympa, dispo, etc. Et parfois il vaut mieux prendre des personnes pas très sympas a priori, plutôt un peu cassantes, un peu raides, mais qui sont hyper compétentes sur leur truc. Ça dépend de vous. Si vous aimez un coach nounou qui va vous consoler, vos petites peines, tout, etc., ben, prenez un coach nounou. Bon nounours, prenez un coach nounours, si vous voulez. C'est votre problème. Vous voyez, ça dépend aussi de qui voulait bosser. Hein. Bon, il ne peut pas tout vérifier. Enfin, son rôle, c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bêtises dans le mémoire. Le septième, il peut être assisté d'un co-directeur. Ça, quand je pense aux prises de tête à l'université dans certaines formations, donc, alors on prend un co-directeur, et qui vient, bien sûr que depuis le début, moi j'ai institué le principe de la co-direction. C'est tout à fait essentiel, en particulier quand un plutôt profil universitaire va compléter un plutôt profil professionnel. Attention, attention, si vous prenez un co-directeur, ça suppose que vous ayez un esprit positif. Un esprit positif. Parce que s'il arrive que les deux co-directeurs ne soient pas d'accord sur quelque chose, la réaction de l'imbécile de service, ah ils sont méchants, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas compétents, puis mon mémoire il est fichu, puis moi qu'est-ce que je vais faire pour venir. Enfin bon, si vous êtes comme ça, dégage, t'as rien à faire ici, ou le corps va ailleurs. Plein de choses passionnantes qu'on peut faire, nettoyer les trottoirs, c'est super bien. Bon, au contraire, c'est bien. Mince, ils ne sont pas d'accord. Oh, c'est génial. C'est qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Moi, l'étudiant là-dedans, ben, je vais essayer de trouver ma voie qui sera entre l'un et l'autre. C'est ça. La contradiction, il faut la vivre de manière positive. Créatrice. Même plutôt que créative, créatrice. Il faut que ça vous motive pour aller plus loin s'ils ne sont pas d'accord. Si ça vous perturbe, eh bien, évidemment, prenez pas. Voilà, bon. Si vous êtes dans la vie. Oui, allez-y. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est vous qui faites la hiérarchie que vous voulez. Il y a des gens qui disent carrément co-directeur, qui mettent les deux noms. Et puis il y en a qui disent directeur des bars. Et puis, alors, vous ne mettez pas sous-directeur. C'est pas terrible. Hein. Bon, pour trouver autre chose. Et puis, c'est pas 50-50. Ça peut être 80-20%. Ça peut être 80% mais non professionnel et 20% universitaire, ou sa mémoire scientifique, machin, le contraire, vous voyez. Et c'est pour ça que vous pouvez très bien panacher entre l'un que vous avez sollicité plus que l'autre. Ça dépend vraiment du sujet. Tous les intervenants du cursus de master sont habitués à travailler comme ça, ça ne les dérange absolument pas. Il n'y a pas d'incompatibilité d'humeur, je fais en sorte que justement les gens s'entendent merveilleusement bien. Oui, c'est pas toujours le cas. Hein. Mais je vous assure que si vous prenez A et B du cursus, il n'y a aucun souci. Il y a parfois des tendances qui fonctionnent depuis longtemps ensemble, il y en a d'autres moins souvent, mais ça dépend essentiellement du sujet, des compétences hein, qui sont les leurs.
Le huitième, il revient là-dessus, il est à votre disposition, certes, mais pas tout le temps, pas sous n'importe quelle forme.
Moi, j'ai hurlé il y a quelques années quand j'ai reçu ma première demande d'avis de problématique par SMS. Là, j'ai hurlé. Le SMS n'est pas vraiment l'outil approprié pour réfléchir sur une problématique. Et là, c'est le moment de donner quelques conseils de nette étiquette. Utilisez bien sûr le mail, les coups de téléphone seulement en cas d'extrême urgence ou chez rendez-vous téléphonique. Arrivé pour une urgence, ok, bon, vous pouvez très bien appeler un coach au téléphone, surtout si vous le dites, mais utilisez plutôt l'écrit. Bon, le mail, et dans le mail, eh bien, essayez de respecter, je crois que je le mets d'ailleurs dans le deuxième, il me semble. Je ne sais plus si je l'ai mis. Voilà. Il y a un problème de couverture. Bon. Le coach, voilà, donc je boucle, c'est lire et écrire. Envoyez-lui des mails. Et des mails structurés. Alors déjà, des mails polis. Je crois que je vous ai dit qu'on n'est pas encore américain. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, je crois que je l'ai dit. Dans un pays qui pratique ça depuis très longtemps. Voilà, c'est ça. L'objet, parfois, nous, c'est... Enfin, l'objet pour l'Américain, c'est le mail, c'est tout. Le corps du mail, c'est vide. Tout est dans l'objet. Ouais. Bon, on n'en est pas là. Et donc, nous, bah, c'est encore des formules de politesse qui commencent généralement par un bonjour, qui se terminent par une formule de politesse. Alors, soit vous êtes dans la norme actuelle, soit vous êtes dans la déférence. Petit exercice. Quelle est la formule de politesse que vous devriez user, vous, en tant qu'étudiant, vis-à-vis d'un directeur de mémoire?
Respectueusement,
bien sûr. Respectueusement. Bah oui. Il y a un sens. Non. Tout ce qui est trop écrit, je vous prie de croire, ou je vous prie d'agréer en expression de mes sentiments de vos voix, de mes salutations, etc. Non. Ça, dans le mail, non. C'est fini, on ne prend pas ces formules de politesse à rallonge, terminé. On ne prend généralement que des adverbes, sinon des adverbes, des substantifs. Mais le cordialement, on va dire que c'est quand on se considère au même niveau que quelqu'un. Ou qu'un supérieur vous dit cordialement, c'est qu'il est sympa avec vous. Si vous dites cordialement à un supérieur, c'est-à-dire que vous vous mettez à son niveau. Dans la plupart des cas, ils s'en foutent. Mais pas toujours. Et dans une entreprise, vous n'avez pas toujours intérêt à dire cordialement. Vous auriez dire cordialement au PDG d'une grande boîte. Pas lui dire cordialement quand même, non? Lui peut vous dire cordialement, mais pas vous. Donc, quand on connaît les usages, après vous faites ce que vous voulez. Mais quand on connaît les usages, on dit plutôt respectueusement. Et éventuellement, le coach peut vous dire au bout d'un certain nombre de messages, écoutez, j'apprécie beaucoup que vous me disiez respectueusement, mais vous pouvez être plus simple à présent. C'est les richesses et les subtilités de l'humain, ça. Alors, soit vous voulez en user, soit vous ne le faites pas, c'est votre liberté. Mais en tout cas, dites-vous que dans certains lieux, le mot cordialement est un peu trop rapide. Bon, vous n'allez pas lui mettre bien à toi. Bien à vous, ouais, ça fait quand on est dans une certaine proximité, le bien à toi, le bien à vous. Vous voyez ? Donc, à vous de voir. Bon, j'en fais pas une histoire, mais je tiens à vous le dire aussi, parce que c'est des choses qu'on dit pas. Soyons maintenant plus sérieux, c'est pas sérieux, ce que je vous dis c'est sérieux, mais c'est pas très important. Un truc très important, la recette du bon contact avec le coach, je vous la livre maintenant. Comment ça se passe pour un entretien avec le coach ? D'abord, vous lui mettez un mail un bon bout de temps avant en annonçant les questions que vous allez lui poser. Attention, pas 50 questions, hein, 2, 3, 4 questions. Bonjour, j'ai réfléchi, etc. J'ai lu ci, etc. Hein. Cependant, je me demande si, par première question, deuxième question, troisième question, la sortie de 2, 3 autres. Bien, arrive le jour de l'entretien. Alors là, deux choses l'une. Soit le coach, il a bien en tête votre mémoire, il a réfléchi, il aura les réponses, ou des éléments de réponse. cas de figure est non honnête, relativement peu probable. C'est une chose à faire. Soit il a peu eu de temps à consacrer à votre maître. Il le sait qu'il y a une maître. Dans ce cas-là, il va redoubler l'intelligence pour essayer de compenser ce qu'il a pas fait auparavant. Donc vous allez l'obliger, je viens de l'obliger, à avoir une capacité d'écoute et d'intelligence qui sont supérieures à sa moyenne habituelle. Pas bête ça. Et vous, dans votre science, c'est plus le cas. Vous leur reformulez la question autrement et vous l'obligez à être intelligent. Vous obligez votre coach à être intelligent. C'est ça le truc. Et ça fait partie de la séduction dont je parlais tout à l'heure. Donc l'échange se fait, que ce soit un échange face à face ou que ce soit par téléphone, enfin téléphone, chat, peu importe la technique. Bon, donc ça se fait très bien. Quel est le secret de la réussite? Les très très bons mémoires, les très bons étudiants, qu'est-ce qu'ils font juste après? Dans une journée, bien sûr. Débriefing, on envoie un mail en disant merci, voilà. Si je peux me permettre de reformuler les réponses que vous m'avez faites. Là, c'est la classe. C'est la classe. Rendez-vous, ça prouve que vous avez posé votre question, vous avez suscité une réponse intelligente, que vous avez absorbé tout ça, et que vous demandez validation, confirmation, etc. Ou que vous rebondissez sur une nouvelle question, ou enfin voilà, tout est possible. Et là, le coach, je dis, purée, j'ai en face de moi quelqu'un qui est quand même... Vous sentez la différence maintenant? Mais pas ma question de départ, c'est qu'est-ce qui fait que de l'un à l'autre, bon, ben, si vous êtes comme ça, le coach, il n'aura qu'une envie, c'est de vous aider, il sera meilleur. Si vous ne pratiquez pas ce que je viens de vous dire, bon, je vous, tu vois... Ils s'en foutent totalement, peut-être que c'est pas bien. Bon, peut-être que je devrais ne recruter que des espèces de saints, une sorte de missionnaires qui seraient là pour le bien de l'humanité, pour notre bien personnel, et qui seraient tout dans l'altruisme, l'ouverture aux autres. J'aimerais bien me faire venir que des gens comme ça. D'ailleurs, ils sont tous un peu, mais pas forcément tout le temps. Hein. Bon, donc, le dernier commandement... Ben tiens, il n'est pas apparu, c'est bizarre. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord, je sais. Ça, c'est quand j'ai changé de format. Voilà. C'est pas très grave. Donc le coach n'est pas toujours... Vous arrivez à le lire. Le coach n'est jamais intégralement responsable. Ça arrive là, oui. Il n'est jamais intégralement responsable. Dixième commandement. Alors, n'est jamais intégralement responsable, ça boucle avec le premier, pour dire que ce n'est pas l'auteur. Il n'est pas intégralement responsable des échecs, c'est-à-dire si votre mémoire vous est plantée, évitez de dire c'est la faute au coach, évitez de le dire en soutenance, ça l'affiche un peu mal quand même, hein, d'accord. Et puis si c'est le succès total, ben, en principe c'est le vôtre, c'est pas celui du coach. Alors, il y en a qui ont un art consommé de balancer des petites vacheries avec le coach dans les remerciements. Les remerciements, ça peut être truc dithyrambique, enfin voilà, bon, c'est fait pour ça. Mais parfois, je remercie particulièrement machin qui, malgré son travail incessant et ses oublis permanents, m'a beaucoup apporté, etc. Petite formule un peu assassine. Enfin, ça peut être marrant. Ça vous le faire si vous avez envie, non, mais vous avez parfaitement le droit de faire sentir qu'il y a un truc qui ne vous a pas plu, qui est vide quand même, non? Mais faites-le avec de l'intelligence et un peu d'humour. Ça fait bien passer les choses un petit peu. D'accord? Voilà. Bon. Ouais, juste une anecdote. Peut-être la seule fois où je me suis carrément mis en colère dans une soutenance, c'était à Angers, tiens. Où j'ai viré quelqu'un, j'ai viré l'étudiante. J'ai interrompu la soutenance, j'ai foutu dehors. On ne pourra les interrompre jamais dans cette. C'était une lune totale. J'avais choisi un directeur de mémoire avec lequel elle ne foutait rien. Le directeur de mémoire est tombé malade pendant l'année. Cancer du cerveau. Il est mort. Et cette salope, pendant la soutenance, a trouvé moyen de charger le directeur de mémoire qui n'avait pas aidé. Voilà. s'en avait qu'un tour. Vous savez qu'il était mort. Bon, là, vous voyez bien ce genre de comportement. Là, non, c'est pas possible. Il y a des limites à tout. Il peut y avoir la décence de dire qu'elle n'a pas été aidée, peut-être. Enfin bon, je veux dire, faire le reproche à quelqu'un qui est mort de ne pas avoir fait le boulot à sa place, terminé, au revoir, ciao, sorti. Ça s'est produit une fois sur les 1400 soutenants, j'estime que ça va comme pourcentage, on est à 0, quelque chose.
Bon, très bien. Alors, ça c'était les relations avec le coach. Sur le positionnement perso, on va dire qu'on s'arrête là, parce que bah, je crois qu'on a à peu près tout dit. À moins que vous ayez des questions à poser. Hein. Non ? Est-ce qu'il faut que je fasse une conclusion sur le positionnement perso, très rapide, hein, pour dire en conclusion que c'est souvent sous-estimé. Souvent, on n'y prend pas garde, on ne fait pas assez attention à ça, on a la tendance à dire ouais, ça va être soi. Ça part de soi du tout. Que ça va des questions très personnelles, existentielles sur votre capacité, votre volonté, tout ce qu'on avait au départ. Ça va jusqu'à une réflexion intense sur vos relations à l'autre, et en particulier au directeur de mémoire, que ça va aussi jusque, on peut dire, jusqu'à ce qu'on appelle le développement personnel. Et là, ça me ramène sur ce que j'avais dit au tout début, s'entraîner à faire un mémoire, c'est bon pour la vie, parce que c'est aussi du développement perso. Ça apprend à mieux réfléchir, à mieux conduire sa raison, comme disait le vieux Descartes. À mieux conduire sa raison. Et donc ça amène à être meilleur, y compris dans le choix des personnes avec lesquelles on peut bosser, dans la manière dont on peut bosser avec elles, etc. C'est donc tout à gagner, à y passer un temps suffisant, surtout en début de semestre. Et tout ce que vous faites pour le mémoire, ça vous servira aussi bien pour le mémoire de M2 que pour des tas de topos, de travaux que vous aurez à rédiger au cours de votre vie professionnelle. Voilà. Alors, deuxième positionnement, et là, on va le traiter, lui, au contraire, en quelques minutes. Ça va être très, très bref, très rapide. Le positionnement institutionnel de l'institution. Oui ?
J'ai une question sur le sujet précédent.
Oui ?
Non,
mais il n'y a pas de...
Mais
aussi,
comment vous demandez...
Vous demandez... Il n'y a pas de méthode. Hein. Ça peut être suite à un cours. Donc, souvent, on dit pourquoi, soit la personne dit bah oui tout de suite, soit elle va vous demander précisément un petit peu les choses. Et de toute façon, ça passe forcément par la phase écrite. Mais il peut être passé une phase orale, comme j'ai dit. Et l'échange écrit, bon, là, vous expliquez un petit peu sur quoi vous avez l'intention de travailler. Ah, alors ça, c'est une super question. Vous voyez que derrière les questions qu'on pense un petit peu bêtes, il y a des questions, des trucs très, très, très mal. Ça, c'est une super question. On va dire, dans la logique universitaire, la structuration classique et habituelle, j'aurais tendance à vous dire, vous me contactez un futur coach, quand vous connaissez votre thème, votre sujet, voire la question que vous avez que vous posez. Ça serait un machin rationnel. Le mot parfait, quoi. Mais nous, on est dans ce qu'il est. Pourquoi je le présente comme ça? Vous pouvez commencer bien plus tôt. Vous avez quand même une vague idée de quelque chose, après tout. Et là, le coach, le prof, le suiveur, l'accompagnateur, etc., peut vous aider pour délimiter le sujet et pour essayer de trouver ce qui va être plus intéressant. Donc, vous pouvez le prendre en amont. Et si vous mettez dans la relation une forte dose psychologique, vous pouvez aussi solliciter quelqu'un, pratiquement pour qu'il vous aide en amont, c'est-à-dire à trouver le sujet. Je ne vous conseille pas trop quand même. Hein, je pense que le bon moment, si vous avez déjà le thème, j'ai envie de bosser sur plutôt la com externe, déjà la com interne, dans tel ou tel, sur des grandes comme l'équipe, des machins, ou sur tel concept, je parle des mémoires appliquées après, le concept de, je ne sais pas trop quoi, la distribution par exemple, dont on va parler en stratégie de développement, le concept de distribution, j'ai envie de bosser là-dessus, je ne sais pas trop où ça va mener, et là, vous contactez quelqu'un. Vous pouvez très bien dire, je ne sais pas où vous amène, mais je sais que j'ai envie de bosser sur la distribution, parce que par exemple, une lecture, un coup, m'a fait découvrir cette notion. dépend aussi. C'est très très perso, hein. Ça dépend comment vous percevez la personne. Dans vos enseignants, il y en a qui ont une grande habitude de délivrer des devoirs, il y en a d'autres qui font moins souvent. Bon, bah, c'est aussi à vous de voir. Vous pouvez prendre quelqu'un qui a une grande habitude parce que vous vous dites, bon, bah, de toute façon, il pourra forcément m'aider pour ça, ou vous attendez d'être assez prêt pour en aller le voir, puis quand votre sujet est déjà bien délivré. Il n'y a pas une seule réponse. Voilà. Bon, alors, le positionnement institutionnel, les exigences du cursus, dites ou non dites. Ici, moi, je suis, vous me connaissez maintenant, je pense, très, très, très souple, très libéral. Ça ne me dérange pas d'être libéral. Bon. Dans plein de sens, d'ailleurs. Pas seulement sous l'angle philosophique, s'il n'y a pas un petit peu de liberté dans la vie, bon, liberté limitée peut-être, mais bon. Alors, disciplinaire, rigoureuse ou libérale? Moi, je suis, j'ai dit, plutôt libérale, c'est-à-dire que votre sujet, il peut être parfois, en apparence, éloigné de la communication. Ça ne me dérange pas, à condition qu'il y ait de la com dedans. Le meilleur mémoire de M1 de l'an dernier, c'est une fille qui s'appelle Marine qui a fait ça. Bon, je dis Marine, vous pensez, désolé, on a le droit de s'appeler Marine. À l'autre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des prénoms comme ça. Bon, et donc cette fille-là qui est quand même bloquée à 18 a fait un truc sur la moto. Le motard et la moto. Un sujet, vous voyez, bon, la moto, d'accord, la communication maintenant, super. Bon, donc tant qu'on reste dans des thèmes thématiques, information, communication, pas de problème. Si vous y mettez autre chose, pas de problème non plus, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, quand même, attendez, que ça soit très largement majoritaire en com. Mais s'il faut mettre une dose d'autre chose, eh ben, une dose d'écho, une dose d'histoire, une dose de je ne sais pas trop quoi, ça ne me dérange absolument pas. Mais, pas 50-50, hein, faut que ça soit au moins 3 quarts, 1 quart ou 80-20%. En dessous de 3 quarts, 1 quart, ça ne passera pas. Quantitative, je crois que je vous l'ai déjà dit, 60 pages, mémoire de master, c'est écrit, ça va faire au moins 60 pages. Plus les annexes, bien sûr. Les annexes ne sont jamais comptées dans la pagination. Ce qui fait que dans la pratique, ils font 80, 100 pages parfois, puisqu'en tout cas, 20, 30, 40 pages d'annexes. Voilà. Les 60 pages, il y a des calibres, voire Montpellier spécialisé pour ça. En fait, ça fait assez peu de signes. Si vous comptez de l'ordre de 2000 signes par page, ça vous fait à peu près 120 000 signes à produire. 120 000 signes, c'est pas énorme. Donc c'est pas non plus quelque chose de trop affreux. Ça c'est sur le quantitatif. En matière qualitative, bah, je crois que je vous ai déjà dit pas mal de choses, hein. En particulier créer la connaissance nouvelle, c'est ce que je vous ai dit, espérance de vie de mémoire, tout ça nous l'avons vu. Et pour la partie qualitative plutôt technique, du genre la maquette, la mise en page et compagnie, voire le poly spécialement dédié à ça. Attention, il n'y a pas beaucoup d'exigences qualitatives, techniques, mais prière de les respecter scrupuleusement. D'ailleurs, si vous regardez les mémoires qui sont dans les armoires derrière, vous voyez que dans l'ensemble, même pas dans l'ensemble, ils sont au moins bien présentés, même si le contenu est critiquable, la forme est quand même correcte. Alors, les thèmes sont libres, ils peuvent être imposés ou conseillés. Ici, les thèmes sont libres. C'est pas toujours pas comme ça. Il y a des grosses formations à la communication dans lesquelles, on va dire pour des raisons structurelles, les étudiants doivent bosser sur le plateau. C'est un peu la structuration de la labo science. Si vous faites des études de biologie, vous êtes dans tel labo de biologie, mais vous n'allez pas bosser sur un autre thème que celui du labo, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, techniques, d'encadrement, de matériel et compagnie. C'est logique, non? Alors ce qu'on a fait pour les gros labos scientifiques, biologie, chimie, physique, médecine, machin truc, ça a tendance, depuis une trentaine d'années, et ça s'est accéléré, à venir dans l'univers des sciences humaines et sociales. Et aujourd'hui, on parle de laboratoire, et il y a des labos dans lesquels il faut travailler sur la thématique du labo. Ici, il n'y a pas de labo. Hein, je vous ai dit pourquoi, je crois. Il n'y a pas de labo pour des raisons diverses et variées, donc on est totalement libre. Pas de problème. Sujet concept, vous êtes libre. Lien avec le terrain, on en a parlé. Vous êtes libre d'en faire et c'est plutôt conseillé. Exigence d'une équipe de laboratoire, il n'y en a pas. Exigence d'un partenaire, il n'y en a pas non plus. Alors, si vous choisissez le mémoire de type 1 appliqué au terrain, le partenaire peut être l'entreprise où vous faites un stage. Là, il y aura bien sûr des exigences. Qui vont des exigences de confidentialité, tout est prévu, hein, je vous l'ai dit, jusqu'à des exigences en matière d'orientation générale. Ça peut arriver. Elles dépendent du partenaire où vous faites le stage et de votre choix de mémoire lié au stage. Bon. Généralement, ce sont des exigences très très souples. Très très souple. Le monde de l'entreprise, généralement, est assez pragmatique. Je parle de l'entreprise plutôt privée. Dans le public, c'est un peu différent. Dans le public, il y a parfois des exigences assez strictes. Parce que c'est un peu moins pragmatique. C'est tout simple. Hein, l'origine vient de ce que, si vous êtes dans le privé, vous êtes forcément pragmatique. Parce qu'il faut tenir compte dans le gouvernement. Si vous n'en tenez pas compte, vous êtes mort. Ça vous force à être pragmatique. Dans le monde du public, c'est un peu différent, parce que vous n'êtes pas obligé de satisfaire les demandes du public. Hein, peut-être une demande du public pour que les bureaux de poste soient ouverts le dimanche et les services publics soient ouverts. Enfin, les services publics avaient les bureaux soient ouverts le dimanche. Je ne veux pas vous dire qu'on allait les ouvrir comme grande surface de votre collège. Donc vous sentez que pragmatique plus fort d'un côté que l'autre, ce qui est parfaitement normal, bon, comme ça. Exigence d'un client. Pour vous, ben c'est rare, mais il y a eu des mémoires de M1 qui étaient liées. Vraiment, là, c'était même plus qu'un partenaire, c'était un client. Ben, c'est le cas d'une étudiante actuellement de M2. Elle a fait son mémoire de M1 il y a 3 ans avec l'exigence du client. C'était une filiale de casino. Et c'était de mettre en place carrément un service de com. Elle était recrutée. Elle s'est tapée 2 années de CDD. Et elle vient faire son M2 maintenant. Bah, elle fait le M1, c'est interrompu. Et elle dit, le service de com est maintenant, elle vient faire le M2. Donc, ça peut être une exigence d'un client. C'est rare. Mais ça s'est produit quelquefois dans la vie du cursus. C'est pas un problème. On sait faire. Les modes d'évaluation, ici, bah, je vous les ai donnés, je crois. Vous savez tout. Hein, les modes d'évaluation. Je le repréciserai dans la dernière partie du positionnement, le dernier paragraphe de ce chapitre positionnement. J'irai un petit peu plus loin pour montrer comment est-ce qu'on évalue vos mémoires. Mais vous savez qu'ils sont notés de 0 à 20, que les critères essentiels tiennent autour de ce que vous savez déjà, c'est-à-dire pragmatique, méthodologie, vous avez une petite idée. Et là-dedans, on tient un petit peu compte d'autres facteurs connexes, comme qualité de la réaction. C'est parfois ce qui peut vous entraîner ou vous coûter une mention. Si vous êtes proche d'une mention, ben, si la forme est mauvaise, vous n'aurez pas la mention. Si la forme est bonne, ça va passer au dessus. Ça joue, mais aux marges. C'est pas parce qu'un mémoire est bien ou mal présenté que vous avez le succès ou l'échec assuré, bien sûr. Donc les modes d'évaluation, je vous avais dit aussi que l'instance de régulation des évaluations, c'est moi, puisque je préside toutes les soutenances du cursus. Comme ça, il n'y a pas de problème, chacun est jugé de la même façon. Dans les cursus où il y a beaucoup plus d'étudiants, on ne peut pas faire ça. Et j'en connais même d'ailleurs où il n'y a pas plus d'étudiants qu'ici, mais les collègues disent « Oh, mais comment tu fais, c'est pas possible ?» Bah ouais, bon, on amuse, quoi. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, les exigences sont les mêmes. C'est moi qui régule en particulier. Alors pour vous, rien, ça ne se sent pas. Alors, en M2, c'est plus sensible parce qu'en M2, on a forcément un partenaire extérieur, le tuteur de stage. Et selon les tuteurs, bah, certains ont la note un peu facile. Parfois aussi, ça arrive, c'est marrant. Il y a un peu au contraire méchant. Mais c'est plutôt du côté facile. Hein. Souvent, les tuteurs professionnels, quand ils sont contents, ils croient que c'est un super boulot. Allez, je mets 16 ou 17. Allez, doucement, c'est un super boulot, mais les calmes un peu. Parfois, quand il y a eu un peu de friction pendant le stage, ça peut être règlement de compte et c'est une note un peu basse. Là, on est là pour remonter la note. Mais ça peut se produire en M2 et c'est moi qui fais l'office de régulateur pour faire en sorte que la note n'introduise pas de disparité par rapport à la relation que vous avez eue avec le tuteur.
Ça se passe toujours bien, on n'a jamais eu de conflit. si je vous demandais, est-ce qu'il y a eu des conflits pour les mémoires? Non, jamais. J'ai eu des conflits. Parfois, on n'est pas d'accord de 1 point ou 2. Le gradient, c'est maxi 2 points. Parfois, entre l'un et l'autre, la soutenance, il peut y avoir 2 points d'écart entre nous. Je parle pour le mémoire, hein, pour la soutenance. Mais pour le mémoire, il peut y avoir jusqu'à 2 points. Bon, c'est pourquoi j'ai toujours prévu, à la fin de notre soutenance, on vous demande de quitter la salle, on délibère immédiatement, et on va vous rechercher pour vous donner les deux notes. Vous avez les notes juste assorties d'un commentaire que je fais pour vous dire pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. La moindre des choses, qu'on vous dise ça, un minimum de transparence dans les cursus, si on n'est pas capable de faire ça avec les étudiants, si on fait comme moi, permis de conduire aujourd'hui, vous savez, vous êtes en déchu. Plus de courage, je veux dire, vous avez, vous êtes quoi. Bon, et donc là, on vous donne directement vos notes. Comme ça, vous savez pourquoi vous avez telle note. Je pense que c'est quand même bien mieux. Attention, j'en profite pour dire, c'est la note qu'on vous donne, c'est la note du mémoire et de la soutenance. Il faut le corréler un tout petit peu avec la note d'anglais qui fait partie de l'ensemble. D'accord. Mais comme elle compte pour très très peu, c'est pas non plus une grosse différence. Voilà, bon, c'est tout. Positionnement institutionnel, terminé, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai dû oublier la pause, non? Ça va être le moment de la faire d'ailleurs. Non, bon, enfin, 5 minutes. Donc, positionnement institutionnel, voilà ce que je peux vous dire ici. Donc, liberté totale, pas de thème imposé, rien du tout. Choisissez un sujet qui soit intelligent, intéressant et qui crée de la connaissance nouvelle. C'est ça qui me paraît le plus important pour vous. Bien. On s'arrête là? On fait une petite pause? Ouais. Enfin, si vous voulez, hein, si vous voulez pas, c'est pas grave. Si vous voulez bien quand même faire une pause, bon, bah, très bien, parfait.